Deuxième Dreamstorming solidaire, mardi 16 novembre, organisé par le groupe SOS et Ashoka. Quatre jeunes pousses ont ainsi reçu un coup de pouce pour que leurs rêves deviennent projets. Passe Senior, s'adresser aux entreprises afin de revaloriser et réintégrer les seniors dans l'emploi. Julien Sojo. Live Supply, humaniser l'hébergement de masse lors des grandes catastrophes humanitaires. Julien Sylvain. UPTI, créer un réseau intégré de travailleurs indépendants handicapés et les appuyer dans la reconnaissance de leur statut. Pauline Blanchard. Chez Dédé, un service de distribution de déjeuners simples, bio et à petit prix, fonctionnant sous forme d'entreprise d'insertion. Lélio Lemoine. Et tous au micro de Pascal Marcaggi.
Seigneur, écoutez, on est mal tombé parce qu'il n'y a pas de vieux qui écoutent Radio Éthique, il y a des personnes qui sont nées avant vous. Expliquez-nous un peu tout ça. Votre nom, c'est Julien Sojo.
Julien Sojo, j'ai 29 ans. J'ai travaillé pendant 6 ans dans une entreprise bancaire, d'abord comme auditeur et ensuite manager de projet. Et pendant cette expérience, j'ai créé plusieurs binômes entre un senior et un junior. On s'engageait en fait chacun dans un contrat à s'échanger des expériences et des connaissances.
Des contrats moraux ?
Oui, le terme de contrat est intéressant parce qu'il y a une forme d'engagement. On vivait une mission qui était plutôt dans notre champ de compétences, mais en dehors de notre travail habituel. Si vous travaillez à la comptabilité, vous allez peut-être travailler dans une autre direction pour une mission dans votre champ de compétences. Et ce qui était vraiment intéressant, c'était ce partage, et surtout que le junior, ça lui permettait d'avoir un apprentissage accéléré, et puis un partage d'expérience vraiment unique, qu'il n'aurait pas eu dans un stage classique. Et puis pour le senior, c'était une manière vraiment de mobiliser ses compétences, de se faire reconnaître quand il était plutôt sur la touche, et puis de se remotiver quelque part par cette expérience-là.
Quelles banques ont permis ce type d'expérience-là ?
La Caisse d'épargne, mais je sais déjà que d'autres concurrents, comme le Crédit Agricole, réfléchissent un peu à des manières de fonctionner comme cela.
Votre projet d'entreprise ?
C'est de créer une plateforme qui cette fois-ci s'adresse à un plus grand nombre d'entreprises dans un territoire, d'avoir une logique de zone territoriale et notamment de s'adresser aux PME qui ont des besoins aujourd'hui. 95% des entreprises françaises, ce sont des PME. Ils n'ont pas les moyens toujours de se payer une expertise d'un senior. Et donc le moyen, ce serait de mutualiser un petit peu des expériences en créant toujours des binômes junior-senior. Alors le junior, il peut être en stage, rechercher un emploi, être en réorientation. Le senior, il peut avoir envie de créer son activité, de se remotiver, se réorienter et de faire des missions ponctuelles, 3 mois, 6 mois, 9 mois, ça peut être en détachement de l'entreprise d'origine et au final il peut être redéployé dans son entreprise d'origine ou peut-être créer son activité ou travailler ailleurs.
Sachant que les binômes ne sont pas intra forcément entreprise, ça peut être effectivement deux entreprises différentes qui se rencontrent.
Ça peut être une entreprise qui a des seniors à disposition ou alors qui réfléchit à une gestion prévisionnelle de ses emplois et compétences, qui se dit tiens pour tel senior c'est intéressant de développer son employabilité avec une mission à l'extérieur et l'entreprise destinataire elle a un besoin. Donc ça crée des passerelles d'emploi et de compétences entre des entreprises d'un même territoire, qui sont dans des domaines totalement différents. Imaginons qu'une personne ait des compétences en informatique, et bien il peut très bien sortir de sa grande entreprise informatique et aller lancer le site internet ou le projet informatique d'une petite PME qui en a besoin sur 6 mois, en lien avec un junior qui, lui, va avoir un stage coopératif qui va vraiment lui apporter une employabilité aussi supérieure.
À quel stade en est votre projet ?
Au stade de l'émergence, c'est-à-dire de structurer mon offre, d'analyser avec les chercheurs, les sociologues, les entreprises et puis concrètement sur le terrain, évidemment, les acteurs eux-mêmes, les cibles qui sont les juniors et les seniors, pour savoir quelle innovation apporter dans cette plateforme et comment répondre à cet enjeu qui nous parle à tous de l'employabilité des seniors, puisqu'on est encore le pays qui a un des plus faibles taux d'emploi des seniors en Europe. Un senior naît toutes les 37 secondes, alors qu'un bébé naît toutes les 42. Donc c'est que notre pays est vieilli et qu'il y a des solutions innovantes à trouver pour maintenir un emploi durable et de qualité aux seniors, tout en recréant du lien intergénérationnel. Donc j'ai été sélectionné par un parcours émergence au sein de l'incubateur d'Entropia, de l'ESSEC. Voilà, je suis dans toute cette phase d'émergence pour sans doute lancer le projet en 2011.
Que vous a apporté ce Dreamstorming ?
C'est un accélérateur d'idées. Jusqu'à présent, je m'entraînais pour faire le 10 km. Ce soir, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont donné les clés pour s'entraîner pour le marathon. Avec des personnes qui sont sur le sujet des seniors, d'autres qui sont complètement dans un autre secteur, d'autres qui sont des entrepreneurs sociaux. Et puis la participation avec le public, très riche aussi de ce point de vue-là.
Justement, le public n'est pas forcément averti en la matière, c'est-à-dire votre projet. Qu'est-ce qui vous a le plus plu et peut-être le plus choqué dans son approche ?
Ce qui m'a plus plu, c'est que c'est un sujet qui, même s'il est complexe, cet enjeu de l'employabilité des seniors, nous parle malgré tout à chacun d'entre nous. Parce qu'on a tous quelqu'un dans notre famille, notre entourage, nos amis, qui vit à un moment donné une période difficile dans l'entreprise. Alors on parle souvent de placardisation ou de démotivation, mais quelque part c'est ça, qu'il y a une rupture. Alors les seniors, il n'y a pas de définition, est-ce que c'est 45, 50, plus de 55, peu importe. Chacun se sent senior à un moment donné, en décalage avec son emploi. Ce qui m'a plu, c'est que j'ai vu que c'est un sujet qui parlait vraiment à chacun et qui faisait réagir et qui me confortait dans cette idée que c'est vraiment un enjeu et qu'il faut y répondre de façon sociale et pas de façon mercantile.
Julien Sylvain, vous avez monté un projet qui s'appelle Leaf Supply.
Leaf Supply est une entreprise que j'ai cofondée avec deux designers, Juan Pablo et Jean-Christophe. Et notre objectif, en fait, c'est de produire localement des lits de camp en carton pour faire face aux grandes catastrophes naturelles que sont les tremblements de terre, les inondations. On a développé ce produit, ça fait un an qu'on y travaille. On a aujourd'hui un brevet qu'on est en train d'internationaliser. On a un partenariat industriel avec un grand groupe de carton.
Qui
Smurfit Kappa, qui sont présents en Europe et en Amérique latine, et qui peuvent donc produire nos solutions là-bas. Et en ce moment, on est en phase de test. Donc on a testé notre produit en laboratoire, un laboratoire qui a certifié qu'il était suffisamment résistant pour faire face à la réalité du terrain. Je pars dans les prochaines semaines au Niger, à Niamey, en partenariat avec l'ONG Shelterbox, tester le produit en situation réelle. Et parallèle à ce test sur le terrain qui va durer la durée de vie du produit, donc on l'espère entre 3 et 6 mois, on mène des tests opérationnels et logistiques avec la sécurité civile, avec des ONG de pompiers par exemple. Le but c'est d'avoir dans les prochains mois, prochaines semaines, un avis très ferme sur l'adaptabilité du produit, savoir s'il répond réellement aux besoins des situations précaires et aux besoins logistiques des ONG.
Qu'est-ce que vous a apporté le Dreamstorming de ce soir et les questions aussi du public?
Moi je suis en ce moment dans une phase très particulière qui est on va dire la fin de la preuve du concept. Maintenant il va falloir me poser la question de est-ce que le marché est suffisamment grand, est-ce que le produit est suffisamment adapté pour rencontrer le succès qu'on attend. En fait, il y a des questions qui vont me demander de bien comprendre dans quel environnement le projet se situe. Donc en fait ce que j'ai voulu venir ici c'est vraiment me confronter à des avis très différents pour avoir la liste en fait des bonnes questions à me poser.
Et alors ?
Et alors, justement, j'ai une très longue liste, donc je vais vous épargner l'inventaire et l'après-vert. Mais globalement, il faut que j'arrive à avoir plus d'informations sur mon marché qui est quand même très particulier. Et puis aussi peut-être essayer de voir s'il n'y a pas des ouvertures, notamment financer le matériel humanitaire grâce à une offre grand public, par exemple, ou financer l'aide humanitaire avec d'autres produits pour fortifier un peu le business model de l'entreprise et puis la rendre encore plus créatrice de valeur sur le long terme.
Créatrice de valeur, effectivement. Les esprits chagrins vous diront que faire de l'argent sur les catastrophes, c'est peut-être pas terrible. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Je leur réponds que c'est une très bonne remarque, mais seulement ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, ce qu'on permet aux ONG de faire, c'est d'économiser déjà de l'argent sur l'achat de leur matériel humanitaire, parce que notre produit est moins cher et surtout, il n'a pas besoin d'être transporté. Or, c'est le transport qui concentre entre 50 et 80% du coût d'un produit sur le terrain. Nous, déjà, on élimine ces coûts-là parce qu'on produit localement. On ne fait pas d'argent, on ne fait pas de beurre sur le dos des ONG, on leur permet d'économiser de l'argent. Ensuite, on leur permet de gagner en flexibilité, on leur permet d'aider plus de monde plus rapidement, étant donné qu'on produit localement. On leur permet aussi d'être plus performantes socialement et écologiquement. Socialement, pourquoi ? Parce qu'en fait, on produit localement. Donc, on fait de l'urgence un outil de développement durable. Et ensuite, écologiquement, parce qu'on a une solution qui est verte, qui est biodégradable, compostable, recyclable. Et aussi, on évite le transport par avion.
Alors très simplement, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt ? Là, c'est moi qui fais la réponse. C'est parce que Julien, vous n'étiez pas là. Qu'est-ce qu'on vous souhaite ? Bonne chance.
Merci beaucoup.
Petit Pauline Blanchard.
C'est une association loi 1901. Ça vise à regrouper et à représenter les travailleurs indépendants handicapés et aider notamment les entrepreneurs à monter leur activité au travers d'un accompagnement, de parrainage, de bénévoles qualifiés avec une représentation pour défendre les droits de ces travailleurs indépendants un peu extraordinaires.
Pourquoi cette idée et pas une autre ?
Je suis passionnée par l'entrepreneuriat et très concernée par la question du handicap. Donc je voulais œuvrer à ce qu'elle puisse choisir en tout cas cette voie professionnelle parmi tant d'autres.
Vous avez l'air d'avoir assez potassé votre dossier. Quel est l'intérêt pour vous de le confronter à un brainstorming de la sorte ?
C'est vraiment un projet personnel très fort cette association pour moi. Pourquoi l'avoir confronté ? Ça fait 2 ans et demi que je suis sur ce projet et je pense qu'on finit par être enfermé dans ses propres idées. C'est important d'avoir le regard critique des autres pour un peu challenger ses idées et les rafraîchir par d'autres.
Le public était nombreux dans la salle, des personnes qui ne sont pas forcément connaisseurs du handicap. Les questions qui vous les ont le plus interpellé?
Ce qui m'a le plus interpellé, c'est vraiment le fait qu'on renvoie le projet par rapport à l'Andy accueil des entreprises. Puisque pour nous, vraiment, ce projet, on l'a imaginé en dehors de toute attaque vis-à-vis des entreprises. Au contraire, on veut travailler avec elles. Donc, je pense que c'est vraiment important pour nous de mener des actions vis-à-vis des entreprises pour justement ne pas renvoyer cette image, invoquer l'idée de l'entrepreneuriat et défendre cette idée-là qu'il vaut mieux entreprendre que d'être salarié. Au contraire, c'est deux approches complémentaires, différentes, qui correspondent à des aspirations différentes des profils qui sont derrière ces projets.
Les entreprises ne sont pas forcément contre le fait d'embaucher des personnes handicapées. Elles savent simplement que rapidement, ce sont parfois les salariés qui ne sont pas tout à fait accueillants.
Il ne faut pas caractériser toutes les entreprises, mais il y a quelque part un plafond de verre dans le parcours de personnes en situation de handicap. Ce n'est pas le cas, encore une fois, dans toutes les entreprises, bien sûr. Mais l'idée, c'est justement qu'une personne qui aspire réellement à un projet professionnel ambitieux, elle peut le réaliser en entreprise, elle peut aussi le réaliser en étant entrepreneur.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
J'ai la bouche pleine et malheureusement, ce n'est pas vous qui avez fait la cuisine et c'est pas si bon.
Bah oui, là, c'est des cacahuètes sous vide, il y a pas de chance que ce soit bon.
Vous êtes mince comme un fil.
Je suis un grand gourmand et j'étais un peu frustré de pas pouvoir avoir de la bonne nourriture saine, pas chère, abordable sur Paris, et du coup j'ai décidé de prendre mon destin entre mes mains et de monter l'offre que je cherchais. Ça s'appelle Chez Dédé, c'est des déjeuners bio à un prix accessible, c'est 8€ entrée plat dessert, livré à vélo sur le lieu de travail et servi sur place.
On se croirait dans un film à la Gabin en noir et blanc. Chez Dédé, c'est développement durable, et puis
Dédé comme développement durable, mais c'est Dédé comme la brasserie du coin aussi. C'est l'idée qu'on n'est pas obligé d'aller dans un endroit très chic pour bien manger, pour manger sain, pour manger en cohérence avec ses valeurs. Puis c'est Chez Dédé parce que c'est à vélo, mais c'est l'idée qu'on recrée un moment convivial sur le lieu de travail.
Vous servez aux gens, les gens mangent ensemble.
Exactement. J'ai mes grandes soupières et différents plats. Donc j'ai une entrée, souvent c'est une soupe. Après j'ai un plat cuisiné avec un accompagnement. Et je leur sers leur petite tambouille et ils mangent sur place la plupart du temps. Soit dans le coin cuisine, soit dans une salle de réunion détournée pour l'occasion. Et je leur donne rendez-vous dans l'ensemble une fois par semaine en disant voilà, le mardi à midi et quart, c'est Dédé qui vient. Et les gens le savent, ils reçoivent un mail la veille, ils s'inscrivent si ça les intéresse. Et ça roule.
Et ça roule. Le dreamstorming, qu'est-ce que ça vous a apporté?
Plein d'idées d'abord, qui ont fusé un peu dans tous les sens. Des excellentes et dans l'ensemble que des bonnes. Et ensuite, différents avis sur des grandes options de gens qui étaient quand même assez informés. Du coup, c'est aussi très bon à prendre. Et évidemment, quelques contacts, des gens qui disent « Ah bah moi, je connais quelqu'un qui fait de la cuisine comme ça, tu pourras aller le voir. » Ou « Oh, là, je connais quelqu'un dans les CE, ça pourrait être intéressant. » Google, c'est bien, mais il n'y a pas la réponse à tout quand même.
Vous avez bien eu des critiques, hein?
Oui, j'ai eu des critiques parce que 8€, c'est vraiment pas cher. C'est difficile de faire tourner un modèle économique avec ça et que du coup, régulièrement, on me dit mais il suffit de vendre ça 14€ à des gens qui ont un peu plus d'argent. Et effectivement, je pense qu'il y a un marché pour faire ça, mais je l'ai dit à un moment, ça fait partie des pistes que j'ai envie de creuser une fois que je suis un peu plus solide opérationnellement, d'aller monter des projets vers les personnes âgées, vers les étudiants, vers les ouvriers, les travailleurs du bâtiment. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Un bon repas bien chaud, bien consistant, pas cher, encore moins cher que ce que je fais là maintenant.
Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous êtes seul?
J'étais seul pendant 6 mois.
À faire la cuisine et à porter le tout à bicyclette?
Non, c'est moi, je fais les desserts, je fais les muffins. Et c'est un restaurateur qui s'appelle Respectable qui a fait la nourriture là pour l'expérimentation. Pendant 6 mois, j'étais seul avec ce restaurateur, avec quand même ma compagne qui travaille, mais qui m'a aidé, qui continue d'ailleurs à vachement m'aider. Et depuis 3 mois, j'ai un ami à moi qui m'a rejoint sur le projet, qui a la bonne idée d'avoir les traits de caractère et les compétences qui me complètent.
Le transport à bicyclette, la réparation au cas où elle crève, et c'est des choses qui arrivent, et le sourire quand vous servez les gens.
Surtout le sourire quand on sert les gens, et la petite histoire sur le menu, sur pourquoi on a fait ça, sur une certaine vision aussi du repas, quoi, un moment de convivialité dans lequel on échange, et on essaie d'échanger du coup autour de thèmes qui nous sont chers. En l'occurrence, la nourriture, bien manger, manger différemment, essayer de voir un peu plus loin que le bout de son nez sur tout le secteur de l'alimentation où il y a quand même beaucoup de choses à faire à mon avis.
On peut allier passion, militantisme et modèle économique qui permet de vivre.
C'est un modèle qui est extrêmement léger. Du coup, j'ai pu payer mon loyer là, pendant les 9 mois d'expérimentation. Bon, c'est clair que pour la petite histoire, moi j'ai fait des essais que mes petits camarades, comme on dit, ils n'ont pas exactement les mêmes revenus. Mais bon, justement, c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est que c'est pas facile de faire s'allier tous ces éléments-là. En particulier, le militantisme, une vision un peu plus cohérente et positive de l'économie avec une affaire qui marche. Moi, c'est ça aussi qui m'attire. C'est de réussir à montrer qu'on peut faire de la bonne bouffe à un prix accessible.
Vous allez casser un certain marché qui ne va pas être d'accord.
On va voir, il y a de la marge, mais j'espère qu'un jour, qu'il y ait les habitudes de manger sur le pouce, ce sera plutôt des recettes de grand-mère que de la nourriture bourrée de gras, de sucre et de sel. Vaut mieux, sinon la sécurité sociale risque de ne pas se porter très bien.
Merci au comptoir général, au groupe SOS, à Choka et tout ça, d'organiser des soirées comme ça. C'est...